Bonjour à tous, je vais vous demander votre attention et peut-être de parler un petit peu moins fort le temps de la présentation par Guy Spitals, que je remercie d'être parmi nous, de son dernier ouvrage, donc Obama président, la méprise. Ça va se passer comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais lui laisser la parole, tout simplement. Il va vous présenter donc son dernier livre, et puis ce sera l'occasion par la suite, si vous le souhaitez, de mener une discussion peut-être, et en tout cas de venir lui poser les questions que vous souhaitez. Voilà, je le remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui, donc un petit peu de calme le temps de la présentation si vous voulez bien, comme ça on pourra s'entendre et tout se passera pour le mieux. Voilà, je lui laisse la parole et le remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui.
Merci. Alors, peut-être ce que je peux faire pour introduire la discussion, si vous la souhaitez, c'est 6 petites réflexions relatives au livre que je viens en effet de publier il y a quelques jours, immédiatement après les élections. Première réflexion, pendant ces près de 2 années, j'ai essayé de suivre d'assez près tout le processus électoral américain. Je voudrais vous confier que j'en sors avec une double appréciation contradictoire. La première, beaucoup d'admiration pour le processus démocratique très sophistiqué des primaires, des caucus. Pourquoi l'ordre des États? Pourquoi des primaires ouvertes, fermées? Tout ça a un sens et constitue une machine, je le répète, très fine d'un processus démocratique dont nous ne connaissons pas l'égalité, l'équivalent, pardon. Et j'apprécie aussi beaucoup, vous savez que le président va être élu le 20 du mois prochain par les grands électeurs, et cette sorte de scrutin universel fédératif, c'est-à-dire où chaque État vote pour les grands électeurs qui vont élire le président, me paraît une belle synthèse de la réalité des États-Unis qui veulent former un pays et d'autre part de respect des États. On se prend à rêver l'apport positif qu'aurait un pareil système dans un grand pays comme l'Inde, moins étendu que les États-Unis mais beaucoup plus peuplé, et où les élections se déroulent malheureusement souvent sur des problèmes régionaux. Avec un système comme celui qui prévaut aux États-Unis, quel aspect fédératif positif serait pour l'Union indienne ? En revanche, grande déception, beaucoup plus que je ne l'imaginais au départ, de l'importance de l'argent. Nous étions avertis dans des livres comme celui d'Al Gore, The Assault on Reason, ou même dans Audacity of Hope, le livre d'Obama, il y a partout cette crainte de l'argent. Mais comme vous savez, tous les records ont été battus. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas des efforts. Mais tout se passe comme si régulièrement dans la vie politique américaine, des hommes politiques voulaient légiférer pour limiter l'influence de l'argent et puis que chaque fois les processus étaient détournés. Il y a eu la loi McCain-Feingold, une loi bipartisane, et puis comme on ne pouvait plus verser de la soft money aux partis, on a créé les comités 521 de façon à ce que la pompe à l'argent puisse marcher sans limite. Et puis il y a eu la grande déception du financement public. Vous savez qu'Obama avait dit tout d'abord qu'il accepterait le financement public qui exclut le financement privé. La période électorale a duré 2 mois, depuis la fin de la convention républicaine début septembre jusque début novembre. La dotation était de 84 millions de dollars. Vous voyez à peu près, pour ceux qui, de mon âge qui pensent encore en francs belges, de 2 milliards 400 millions. Et pour les 60 jours, Obama a donc décrété que ce n'était pas assez, qu'il changeait d'avis et que, somme toute, comme son argent privé venait un peu de partout, c'était aussi, d'une certaine manière, public, un peu un artifice, puisque les chiffres ont été publiés très clairement dans la presse américaine. La présentation selon laquelle les petits électeurs faisaient des souscriptions sympathiques est vraie, mais très minoritaire, et Obama doit l'essentiel de ses ressources à nul autre pareil, des cabinets d'affaires et des banques d'affaires de Wall Street. Donc, déception de voir cet argent qui pèse sur tout, et plutôt que mon avis qui suis très extérieur au système, à nouveau, je vous répète, il faut lire ce que Al Gore et Obama lui-même disent ou disaient de cette influence pernicieuse. Deuxième réflexion, j'ai suivi le discours d'Obama qui, très logiquement, s'inverse dans les deux parties de la période électorale. La première partie, dans les primaires, on parle pour les membres du parti, pour les affiliés qui doivent vous nommer, et dans la deuxième, on parle pour l'électeur. Et Obama, de manière assez classique, a recentré son discours, tandis que McCain, curieusement, et ça a peut-être contribué à sa perte, est parti d'un discours relativement modéré, et peut-être parce qu'il craignait l'électorat, que l'électorat républicain évangélique lui échappe, il a fait ce curieux choix de Sarah Palin et il a durci son discours. C'est donc celui qui a joué la politique le plus centriste qu'il a emporté. Et dans mon livre, je m'efforce de montrer que, s'agissant de la politique sociale, vous savez qu'Obama ne veut pas reprendre le plan de Hillary Clinton sur l'extension des soins à l'ensemble de la population, mais seulement couvrir les enfants. Vous savez que sur le plan sécuritaire, Obama a voté le Patriot Act, n'est pas opposé à la détention des armes par les privés et, comment dirais-je, n'exclut pas du tout la peine de mort dans les cas les plus graves. Donc, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, en remettant en cause les zones de libre-échange par les contacts étroits qu'il a eus avec les syndicats dans les États industriels, on peut dire que c'était un candidat centriste et qu'il n'y a guère de grandes surprises en la matière. Troisième réflexion et autre partie de mon livre, j'ai eu beaucoup de plaisir à reprendre, soyons francs, les politologues américains qui marquent, qui impressionnent les élus et leurs machines. J'ai repris celui-là, je l'avais lu, un livre extraordinaire, Le grand échiquier de Brzezinski, The Great Chessboard, paru il y a une dizaine d'années, et je trouve que tout est là, sur la politique extérieure qui m'intéresse, tout est là. Politique très dure vis-à-vis de la Russie qui peut se réveiller, et vous savez la politique que Clinton a suivie à l'endroit d'Helsinki. Le continent essentiel, c'est l'Eurasie, dont il faut un axe France, Allemagne, Russie, écoutez-moi, Ukraine. Il faut veiller à ce que l'Union s'unisse sur le plan économique, mais ne constitue surtout pas un rival politique pour les États-Unis, contrôle essentiel du Moyen-Orient pour les ressources pétrolières. Bref, ce livre est d'une très grande franchise et d'une très grande clarté. Brzezinski en a commis deux autres depuis, et je dois dire que le dernier, sorti il y a peu, curieusement, matine d'un certain pessimisme ses prévisions antérieures. Joseph Nye, le père du soft power, mais attention, comprenez bien ce qu'est le soft power, le pouvoir culturel. Nye le dit très clairement, et il y a tout lieu de penser que Obama y recourra, plutôt que le big stick, le gros bâton, c'est la séduction, mais la séduction pour amener les autres à penser comme vous. C'est le livre, non pas sur l'environnement, mais le livre politique d'Al Gore, The Assault on Reason, qui est un livre, je trouve, assez remarquable, et où Gore porte sur le système dont il a été le vice-président un regard très inquiet. Et enfin, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec beaucoup d'admiration intellectuelle. C'est Mearsheimer, de l'école réaliste de Washington, dont il faut savoir qu'il était opposé à la guerre du Vietnam et à la guerre d'Irak, mais qu'il développe la théorie suivant laquelle une bonne géopolitique américaine, cela consiste à contrarier toutes les puissances qui pourraient monter et devenir plus ou moins proches en rayonnement, en puissance des États-Unis. Quatrième réflexion, j'ai pris les 6 présidents démocrates depuis la Seconde Guerre mondiale et je me suis efforcé chaque fois d'indiquer, oh certes, plusieurs d'entre eux ont eu des actions très importantes, qui auraient le culot de vouloir minimiser le New Deal de Roosevelt, qui ne connaît l'importance des lois civiques prises par Lyndon Johnson. C'est lui qui a pris les mesures que Kennedy avait annoncées après sa courte présidence de 2 ans, interrompue par son assassinat. Tout ça, c'est important, ce n'est pas rien du tout. Mais il me frappe que les 6 présidents ont en commun une réelle politique vraiment très marquée. Et le cas le plus proche de nous, et le plus flagrant, me semble-t-il, est Bill Clinton, à l'endroit duquel je suis assez sévère, à vrai dire, parce que je trouve que sa politique, tant dans les Balkans, tant vis-à-vis de Moscou, peut-on rêver le fameux grand choc qui devait provoquer une révolution culturelle en Russie, a été vraiment la période la plus pénible de ce grand pays. Les Balkans, ben, je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à trouver que cette aventure des deux guerres n'a absolument rien résolu à cette partie du monde. Clinton a eu au Moyen-Orient une politique, c'est pas le fils Bush qui a commencé les hostilités contre l'Irak, c'est Clinton, par les bombardements, par les opérations militaires menées contre le Soudan et l'Afghanistan, et dont je voudrais dire au passage, c'est presque en m'excusant de mentionner un aspect aussi particulier, mais qu'on a tout de même un certain inconfort moral quand on voit que ces deux frappes arrivent au moment où William Clinton est le plus en difficulté dans l'affaire Lewinsky, la première dans la mise en cause et la deuxième au moment même de l'impeachment. Il est de ces manières de vouloir détourner l'attention publique dont on se passerait. Silence de Clinton dans l'affaire du Rwanda, total, avec l'influence qu'il pouvait exercer aux Nations Unies, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas à m'acharner, naturellement, sur la présidence du nice boy jouant du saxophone avec les lunettes noires. La séduction est une des armes de la politique. Mais je dis simplement que si on est sérieux, il n'est pas possible de présenter la politique du père Bush, pas de Junior, mais du père Bush, qui est un homme traditionnel de la réelle politique, et celle de Clinton comme étant distincte comme le jour et la nuit, c'est assez du pareil au même. Les 6 présidents ayant été analysés sous l'angle d'une continuité considérable de la politique américaine, avant-dernière réflexion, je fais le tour des fronts américains comme ils se présentent maintenant, pour le nouveau président qui se trouve Barack Obama, qui aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais les gros fronts, je ne vous apprends rien, c'est l'Irak. Oui, un accord a été marqué pour le départ des troupes américaines 38 mois après la signature. Ce n'était pas la position du candidat président. Mais je pense qu'il la maintiendra, d'autant plus s'il devait prendre Robert Gates, l'actuel secrétaire à la Défense, comme également son secrétaire à lui à la Défense. Ceci dit, je demeure prudent. 38 mois, c'est un horizon considérable. Partiront-elles à la fin de 2011 soyons prudents. Que vont devenir, une fois les Américains rentrés dans leur base, les relations entre chiites et sunnites? Que va devenir le problème non résolu des Kurdes? Vous savez qu'aux élections provinciales, dans quelques semaines, on ne vote pas Kirkuk et Mossoul parce qu'on n'a pas su résoudre le problème. Bref, l'Irak demeure bien incertain. Surtout, il y a l'Iran à côté. Pendant la crise profonde que nous connaissons, et très légitimement l'attention est centrée sur ce sujet, il n'en demeure pas moins que les centrifugeuses iraniennes tournent et qu'il va bien arriver à un moment de vérité ou d'échec en échec des négociations des 3 Européens, il faudra prendre attitude. Vous savez sans doute que Bill Clinton n'a pas exclu au cours de sa campagne une intervention militaire, bien malin qui pourrait dire ce qui se passera, mais le dossier est là devant nous. Je dirais 3 dans la zone que c'est peut-être le front le plus périlleux, c'est le binôme Afghanistan-zone tribale-Pakistan, où, je vous le rappelle, le président élu a pris une position plus carrée que son compétiteur McCain. Il dit, somme toute, comme McCain, qu'il faut transférer des troupes d'Irak en Afghanistan, mais il a été plus tranchant que McCain sur l'intervention militaire américaine dans les zones tribales du Pakistan. Vous voyez ce que cet État est-il responsable ou non de ce qui s'est passé à Mumbai il y a quelques jours ? Je me garderai de trancher. Je sais simplement que cet État de 165 millions d'habitants, le deuxième État musulman du monde, est un véritable brûlot et qui, touché, présente bien des risques. D'autant plus qu'il a un armement nucléaire militaire, comme vous le savez. Quatrième et dernier front au Moyen-Orient, je pense qu'il n'est pas dans les intentions du président d'intervenir dans le conflit Israël-Palestine rapidement. Bush père, Clinton et Bush fils, à Annapolis il y a quelques mois, le font dans leur deuxième terme lorsque le risque est moindre. Cependant, ce front n'est pas stable. Vous savez très bien que le risque est que le super faucon Bibi Netanyahou soit élu numéro un de l'État d'Israël. Et je pense d'autre part que les renseignements de la sécurité israélienne sont sérieux et que l'armement tout à la fois du Hezbollah dans le sud Liban et du Hamas dans la bande de Gaza se renforce. C'est donc une zone très délicate. Quatrième point qui attend le président des États-Unis. Et je dirais qu'on en parle moins, mais c'est pour moi un grand problème, une grande issue, c'est la Russie. Oui, il n'y a pas de décision cette année sur l'adhésion des deux pays litigieux, la Géorgie et surtout l'Ukraine, à l'OTAN, mais ces dossiers vont revenir au printemps prochain au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, quelles vont être les décisions ? Bill Clinton va-t-il faire marche arrière sur son devancier ? Ou va-t-il au contraire nous prier de l'aider pour ne pas être mis en porte-à-faux ? Que va devenir le radar tchèque et les dispositions missiles, antimissiles prévues en Pologne ? Censément contre les missiles irakiens, mais c'est un peu difficile d'imaginer que ce soit la vraie raison, et les Russes, en tout cas, n'en croient pas le premier mot. Bref, le front russe est très difficile. Les deux partenaires sont cabrés. Les ministres des Affaires européens, avec une naïveté qui fait sourire, ont demandé à la réunion de Nice il y a quelques semaines aux Américains de devoir être traités sur un pied d'égalité. Je crois que les Européens vont avoir eu des surprises un peu rudes et qu'il va nous être demandé, tout au contraire, de renforcer notre présence militaire en Afghanistan, en nombre, de ne pas refuser d'aller dans les zones difficiles du sud-est et de l'est, et d'avoir une attitude non plus divisé sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Bref, ce sont des dossiers assez nombreux qui vont se trouver devant le président, sur lesquels l'attention ne tire plus l'œil pour l'instant, parce que les soucis sont ailleurs, nous le savons, économiques et financiers, mais qui immanquablement reviendront au premier plan de la vie internationale. Enfin, dernière réflexion par laquelle je termine. Que va faire le président Barack Obama ? Mais je trouve que les intellectuels américains sont très conscients de la transformation du monde. Je pense trois livres que j'ai, ou plutôt deux livres et une série d'articles que j'ai lus avec beaucoup d'intérêt. Prenons les articles. Il s'agit de Richard Haass, qui a été planificateur de la politique étrangère au Département d'État et qui publie régulièrement dans Foreign Affairs, dont il est le président. Il s'agit du livre de Thomas Friedman, celui-là traduit en français « La Terre est plate », et du livre de Farid Zakaria, « The Post-American World ». Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois politologues de grand niveau ? Un, le XXIe siècle ne sera plus américain. C'est la montée à force de l'Asie, 60% de la population. Le monde n'est pas nécessairement anti-américain, il est a-américain. Nous sommes dans un monde multipolaire, ou tout au moins apolaire. Toutes ces phrases ont en commun de décrire l'effacement. Est-ce que le président américain va s'inspirer de cette vision et être, comme l'appelait curieusement George Bush avant le 9 septembre, une nation plus modeste, ce que nous appellerions tous de nos voeux? Personnellement, je ne crois pas. Non pas que ne se trouve pas avec Barack Obama devant un homme très intelligent, ayant fait preuve d'une qualité de stratège tout au cours de sa campagne, s'exprimant magnifiquement, de manière charismatique, écrivant bien, ayant, je crois, l'art de s'entourer. Donc ce sera un président peu banal, sûrement. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il compte relativement peu et qu'il tombe dans un environnement économique et financier qui est celui des États-Unis, qui a d'ailleurs soutenu, je l'ai dit il y a un instant, sa candidature, et que celle-ci n'a pas la vision de diminuer son rang dans le monde.